Vous écoutez, on lit pour vous.
Tout un quartier chauffé par la chaleur perdue d'une usine. Un texte de Raphaël Derome, paru le 10 octobre 2024 dans Québec Science. Des industries énergivores laissent s'échapper des quantités phénoménales de chaleur dans la nature. Québec veut la récupérer pour améliorer son bilan carbone. Nous sommes dans un quartier en construction de Gatineau, érigé sur près de 14 hectares, 34 acres, d'anciens terrains industriels. Au bord de la rivière des Outaouais, une tour d'appartement de 15 étages, la première de ce projet nommée Zibi, a vue sur Ottawa et sur le Parlement. Le hall en jette avec ses canapés contemporains, ses murs de bois rainurés et son plancher façon marbre blanc. Mais ce qui nous intéresse se trouve au niveau inférieur. Direction, la chaufferie. La vaste pièce, haute comme deux étages, est baignée de lumière naturelle. Le bruit des machines nous fait hausser la voix. Des conduits de tous les diamètres, bien alignés et gainés de couleurs vives, relient les différentes pompes, thermopompes, réservoirs et autres échangeurs de chaleur. Presque chaque pièce d'équipement porte un thermomètre et une jauge à pression. Ici, pas de chaudière au gaz naturel. Notre guide désigne au plafond un banal tuyau gris d'une trentaine de centimètres de diamètre. C'est par ici qu'arrive l'énergie, indique Brittany Poisson, ambassadrice en durabilité pour le quartier Zibi. Ce conduit transporte de l'eau en provenance de l'usine de produits Kroger, située à 1 kilomètre en aval. Celle-ci fabrique du papier hygiénique, ce qui nécessite beaucoup de chaleur. À la fin du procédé, l'usine rejette de l'eau tiède, 25 degrés Celsius, dans un gigantesque bassin rond extérieur où elle refroidit tranquillement avant d'être déversée dans la rivière des Outaouais. Mais depuis quelques années, on capte une partie de cette énergie perdue pour l'amener ici. Des thermopompes concentrent la chaleur pour fournir le chauffage et l'eau chaude à 500 résidents. En été, c'est l'eau de la rivière des Outaouais qui refroidit les conduits pour climatiser les bâtiments. Et ce n'est qu'un début. Au fil des ans, de nouveaux logements, bureaux et magasins seront raccordés au même réseau. À terme, en 2032, on desservira 370 000 mètres carrés, 4 millions de pieds carrés, de locaux. Assez pour loger 5 000 personnes et accueillir 6 000 travailleurs et travailleuses. Cela évitera l'émission de 6 000 tonnes de CO2 chaque année, l'équivalent des émissions de plus d'un millier de voitures. Tout cela en n'utilisant que 10% de toute l'énergie disponible dans le fameux bassin d'eau tiède de Kroger. Autrement dit, il reste assez de chaleur pour alimenter bien d'autres bâtiments à Gatineau. Ailleurs au Québec, certaines serres sont chauffées avec des rejets de chaleur industrielle. Mais la valorisation des rejets thermiques reste peu développée dans la province. C'est en train de changer. Un gisement colossal. Si on imagine sans peine le potentiel thermique d'un incinérateur ou d'une fonderie, il est plus difficile d'imaginer chauffer un quartier entier en plein hiver avec de l'eau tiédasse. Et pourtant, l'eau chaude contient beaucoup plus d'énergie que l'air chaud, explique l'ingénieur Stéphane Gagnon, coordonnateur de la valorisation des rejets thermiques au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'est une question de densité du matériau. Un litre d'air, ça ne pèse presque rien. Alors, un litre d'eau à 25 degrés Celsius contient beaucoup plus d'énergie qu'un litre d'air à 25 degrés Celsius. Autrement dit, un litre d'eau contient plus d'atomes qui s'excitent et de molécules qui s'agitent, tournoient et se déplacent dans l'espace et qui pourront restituer cette énergie. 77 % de l'énergie consommée par les ménages québécois sert à produire ou à gérer la chaleur. Chauffage des locaux, chauffage de l'eau, climatisation. Source, État de l'énergie au Québec 2023. Soit. Mais de combien d'énergie parle-t-on au juste? À la demande du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, les scientifiques de Polytechnique Montréal se sont penchés sur le sujet. L'équipe de Michael Comert a répertorié les établissements qui génèrent des gaz ou des liquides chauds. Usines de pâte et papier, cimenterie, raffinerie et aluminerie, usines alimentaires, centres de données informatiques, incinérateurs. Les premiers calculs, publiés en 2021 et en 2023, arrivaient à un total annuel de 300 pétajoules. Il s'agit d'un nombre phénoménal, équivalent à 82 TWh, TWH, soit 10 fois le complexe hydroélectrique de la Romaine. Si on parvenait à capter toute cette chaleur, on en aurait assez pour chauffer toutes les maisons du Québec. Fou! Vous écoutez « Tout un quartier chauffé par la chaleur perdue d'une usine », un texte de Raphaël de Rome, paru le 10 octobre 2024 dans Québec Science. Évidemment, il s'agit d'une estimation théorique. En pratique, on ne peut pas prendre la chaleur d'une usine à 300 km et l'amener à Montréal. Il faut la consommer dans un rayon de 1 à 5 km, explique Bruno Marcotte, professionnel de recherche à Polytechnique Montréal et co-auteur du rapport. Ensuite, valoriser la chaleur a un certain coût. Installation de tuyaux, de thermopompes, etc. Enfin, ajoute l'expert, il faut une certaine adéquation temporelle entre les rejets et les besoins en chaleur. Les industries rejettent de la chaleur toute l'année, mais on ne chauffe pas les maisons en été. N'empêche, une nouvelle étude de Polytechnique, parue en juillet 2024, vient chiffrer plus précisément le potentiel technico-économique, c'est-à-dire l'ampleur des gisements de chaleur qu'il serait possible d'exploiter. Résultat, environ 25 % du total. De quoi chauffer 1 million de logements. Ou encore, 4500 hectares de serres, soit 18 fois la superficie actuelle des serres québécoises. De quoi égayer nos hivers avec plus de fruits et légumes locaux. Bref, de la chaleur, on en a en masse. Pourquoi la laisse-t-on s'échapper dans la nature? Après tout, les technologies pour la récupérer sont déjà disponibles. Les usines le font régulièrement à l'interne pour préchauffer de l'eau, par exemple. Mais lorsqu'il est question qu'une organisation offre sa chaleur à une autre, il n'y a encore qu'une poignée de projets dans la province. Pourquoi? D'abord, la faute au faible coût de l'énergie. Historiquement, ce n'était jamais assez rentable. C'est aussi une question de mentalité, explique Stéphane Gagnon. Dans la société nord-américaine, on n'est pas habitué à partager. Si tu as besoin d'une tondeuse, tu n'empruntes pas celle du voisin, tu vas t'acheter ta propre tondeuse. Pour le chauffage, c'est la même chose. Chacun sa chaudière. Et si le voisin rejette de la chaleur, ça ne m'intéresse pas. Ce passionné d'environnement travaille depuis des années à changer les choses. Le contexte actuel l'aide enfin à convaincre les décideurs. Comme nous devons nous détourner des énergies fossiles, les énergies renouvelables, au premier titre l'électricité, font l'objet d'une grande demande. Et on est plus sérieux qu'il y a 10 ans dans la lutte contre les changements climatiques. Car même si nombre de maisons québécoises sont chauffées à l'électricité, les grands bâtiments, édifices commerciaux, multilogements, hôpitaux, écoles, sont plus souvent chauffés au gaz naturel ou même au mazout. Même chose pour les serres. Au total, cela représente 200 000 bâtiments qui comptent pour 7 % des émissions de GES de la province. En les chauffant avec de la chaleur recyclée, on diminue les émissions de gaz à effet de serre. Ou encore, on réduit la demande d'électricité en hiver, période de pointe pour Hydro-Québec. Le gouvernement l'a bien compris et, depuis un an, fait pleuvoir les millions pour soutenir les projets. Car l'infrastructure de départ est coûteuse. En plus de toute la plomberie nécessaire pour récupérer la chaleur, il faut installer un système de secours assez puissant pour assurer 100 % des besoins en chauffage en cas de panne ou de fermeture temporaire d'usine. Pour le moment, le programme de valorisation des rejets thermiques, géré au ministère par Stéphane Gagnon, dispose de 400 millions de dollars, ce qui en fait la mesure la plus généreuse destinée au secteur du bâtiment dans le plan pour une économie verte. L'aide est attribuée pour financer les études de faisabilité et les équipements de captage et de transfert de la chaleur. Le programme offre 125 dollars pour chaque tonne de CO2 évitée, un coût jugé raisonnable par le physicien Normand Mousseau, spécialiste de la transition énergétique et directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier à Polytechnique Montréal. Les autres mesures prévues dans le plan pour une économie verte coûteront en moyenne 5 fois plus cher, soit 650 $ la tonne. C'est aussi une bonne affaire si un projet remplace l'électricité. Ça coûte moins cher de financer des projets de valorisation des rejets thermiques que de faire de grands projets de production électrique, résume Stéphane Gagnon. Soutenir la récupération de chaleur coûte aux contribuables 2,9 cents pour chaque kilowattheure, une aubaine comparée aux 7,8 cents le kilowattheure payé par Hydro-Québec pour les plus récents projets éoliens. Projets existants. Saint-Félicien, centrale de cogénération à la biomasse de produits forestiers, résolu serre toundra concombre. Drummondville, centrale de cogénération au biogaz issue du site d'enfouissement de Saint-Nicéphore, serre de mers, tomate. Saguenay, Elkem Metal, serre Sagami, tomate. Gatineau, produit Kruger, quartier Zibi, logements, commerces et bureaux. Projet à venir. Sherbrooke, centre de données, Exaion, quartier Humano-District, mise en service prévue cet automne. Lévis, centre de données, Q-Scale, projet Séricole, annonce à venir. Québec, incinérateur, nouvel hôpital de l'Enfant Jésus, suspendu. C'était Tout un quartier chauffé par la chaleur perdue d'une usine, un texte de Raphaël de Rome, paru le 10 octobre 2024 dans Québec Science.
La petite histoire du Penny Loafer, un texte commandité, paru le 20 novembre 2024 dans La Presse. Communément appelé Penny Loafer, le flâneur a su traverser les époques sans jamais se démoder. À qui doit-on cette chaussure classique? Comment a-t-elle évolué au fil des décennies? Voici la petite histoire de ce grand incontournable de la mode. Un certain flou entoure l'origine du flâneur. D'un côté, on raconte qu'il a vu le jour au début des années 1900, lorsque des voyageurs américains ont été séduits parce que les pêcheurs norvégiens autochtones portaient aux pieds. Un cordonnier du nom de Nils Gregorwisson Tveranger se serait alors lancé dans la confection d'une chaussure en cuir dépourvue de lacets. De l'autre, les Britanniques affirment qu'ils ont ouvert le bal le jour où le roi George VI aurait commandé à son personnel des chaussures dans lesquelles il allait pouvoir flâner à sa guise. Qui dit vrai? Qui dit faux? L'histoire semble plutôt pencher du côté de la version des pêcheurs norvégiens autochtones. Néanmoins, une chose est sûre. Les premières paires commercialisées en Amérique du Nord remonte aux années 1930. Fruit d'une collaboration entre le magazine masculin Esquire et la maison de couture new-yorkaise Rogers, Peet & Company, ces chaussures ont d'abord porté le nom de Wegians, une abréviation du mot Norwegians. G.H. Bass a été le premier fabricant américain à concevoir les flâneurs en cuir en 1936. Si les Wegians font d'abord fureur sur la scène mondaine de Palm Beach, il faut attendre jusqu'aux années 1950 pour que la tendance connaisse sa véritable heure de gloire. Séduit par l'allure à la fois chic et décontractée de ses chaussures, les étudiants des universités Ivy League commencent à adopter les Wegians en grand nombre sur les campus américains, propulsant le modèle au sommet des tendances. À une époque où les téléphones cellulaires n'existent pas encore, les jeunes prennent l'habitude de glisser une pièce de monnaie, un penny, dans leurs chaussures, plus précisément dans la fente décorative de la bande de cuir cousue sur le dessus du plateau, en prévision d'un appel téléphonique à faire dans une cabine. Anatomie du penny loafer. Le surnom penny loafer fait allusion aux étudiants qui cachaient une pièce de monnaie dans leurs chaussures au cas où ils auraient besoin de passer un appel urgent. À l'époque, un appel fait depuis une cabine téléphonique coûtait un sou. Facile à enfiler, le flâneur est depuis toujours un symbole d'élégance. Dans les années 1950, il se portait aussi bien avec un short qu'avec un pantalon en toile. Le penny loafer se distingue par sa confection en cuir et par sa couture sur le plateau de la chaussure. Petit à petit, le penny loafer a également fait son apparition dans la culture populaire. Des personnalités publiques comme James Dean, Katharine Hepburn et John F. Kennedy l'ont adopté et ont contribué à son engouement grandissant. Au fil du temps, de grandes maisons de couture ont même revisité le modèle traditionnel. C'est le cas notamment de Gucci, qui a proposé, en 1956, une version ornée d'une barre métallique dorée inspirée d'un morse de cheval. Aujourd'hui, le flâneur continue de se frayer un chemin dans le cœur des adeptes de la mode, s'imposant autant dans les garde-robes féminines que celles masculines. Chez les créateurs de mode, ils se déclinent plus que jamais de multiples façons. Même G.H. Bass ne cesse de revisiter ses Wegians originaux. C'était la petite histoire du penny loafer, un texte commandité paru le 20 novembre 2024 dans La Presse.
Le mégaposte d'Hydro, une plaie pour le quartier latin selon des sommités. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Legault et aux membres de son Conseil des ministres, sept sommités du monde universitaire et de la culture s'insurgent de voir l'État être à la veille de céder, en catimini, toute porte close, les espaces adjacents à la grande bibliothèque pour y ériger un énorme poste de transformation électrique de 315 000 volts, édifice industriel massif, élevé, dangereux, dont la présence sera le symbole d'une démission collective. Lise Bissonnette, ancienne directrice de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, BANQ, l'urbaniste émérite Gérard Baudette, l'architecte Phyllis Lambert, fondatrice du Centre canadien d'architecture, l'ancienne ministre de la Culture Christine Saint-Pierre, le dramaturge Michel-Marc Bouchard, l'historien des sciences Yves Gingras et l'archiviste émérite Carole Couture sont d'avis que ce mastodonte érigé face à la gare d'autocars de Montréal plantera un clou dans un cercueil ou menace de basculer le quartier latin si ce projet se réalise. Si Montréal va de l'avant avec ce projet sur ce site stratégique, ce sera, écrivent-ils, la seule grande ville au monde à s'infliger une plaie pareille, ce qui deviendrait le symbole d'une médiocrité. Il serait alors impossible de penser requalifier un secteur déjà outragé. Ce projet, projeté dans les jardins qui jouxtent la grande bibliothèque, apparaît aux signataires comme une absurdité. Ils réclament que le gouvernement du Québec et Hydro-Québec y renoncent. Notre conviction est qu'ils n'ont pas vraiment étudié les autres sites, affirme en entrevue Lise Bissonnette, tout en soulignant que l'idée que tout doit être érigé dans un périmètre de 500 mètres de l'ancien poste électrique, comme la Société d'État l'affirme, ne tient pas la route par rapport à ce qui est fait ailleurs, y compris à Montréal. Les partis pressés d'agir. Les signataires s'attendent à ce que les partis d'opposition agissent. Selon Lise Bissonnette, le bureau de la députée Manon Massé est, pour sa part, extrêmement engagé dans ce dossier. Quand Mme Massé a posé des questions en chambre, la ministre de l'Économie et de l'Énergie, Christine Fréchette, lui a répondu les lignes de communication d'Hydro-Québec. « Je ne crois pas que Mme Fréchette soit vraiment investie dans ce dossier. » Ancienne présidente du conseil d'administration de l'UQAM et ex-directrice du Devoir, Lise Bissonnette affirme avoir appris par la bande, comme d'autres, ce qui se tramait dans cet espace public. « Nous nous sommes réunis à plusieurs autour d'une table pour en discuter. Nous n'essayons pas de faire le travail à la place d'Hydro-Québec. C'est à eux d'arriver à une meilleure solution, à trouver de meilleurs scénarios. Ce projet, dans sa forme actuelle, est inacceptable. » Les signataires trouvent paradoxal que le gouvernement du Québec vienne de se doter d'une politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire qui se veut exemplaire, alors qu'il propose un projet pareil en plein cœur d'un quartier historique. « Comment se fait-il, demande Lise Bissonnette, que durant tout ce temps, Hydro-Québec n'a pas été plus transparent? Pourquoi le ministre de la Culture et des Communications n'a pas réagi? Sans parler de BANQ et de son conseil d'administration qui n'ont jamais dit un mot. Les signataires demandent d'ailleurs au conseil et à la direction de BANQ, fiduciaire de l'ensemble de nos héritages, d'expliquer leur collaboration directe à une calamité qui va miner leur propre mission, étant entendu que le silence absolu de l'institution est en soi une parole. Ce projet de poste de transformation géant ne promet pas de corriger une situation malheureuse, mais de l'aggraver, prédit Gérard Baudette. Vous écoutez, le mégaposte d'Hydro, une plaie pour le quartier latin selon des sommités. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir. Un urbanisme des années 1950. Lise Bissonnette déplore que même la ville de Montréal n'ait pas dit un mot. Ils sont aux abris. Pourquoi ont-ils été attachés au secret absolu face à cette transaction? Tout ce monde sait que c'est catastrophique. Ils savent que tout le monde va prendre avant longtemps la mesure de la catastrophe. C'est comme s'ils avaient peur que ça éclate. Pour l'urbaniste émérite Gérard Baudette, le projet n'a tout simplement pas de sens. On est ici, dit-il, dans la nostalgie de l'urbanisme autoritaire des années 1950. L'espace où Hydro-Québec, avec la collaboration de la Ville de Montréal, promet d'implanter son mégaposte de transformation électrique est précisément un de ceux qui ont le plus souffert de cette approche, avec cette tranchée qui est devenue la rue Berry, à la hauteur de la côte à Baron. Or, ce projet de poste de transformation géant ne promet pas de corriger une situation malheureuse, mais de l'aggraver, soutient Gérard Baudette. Et si, malgré des vives protestations, le terrain était tout de même cédé à Hydro-Québec? Gérard Baudette croit que ce ne serait pas une bataille perdue pour autant. L'urbaniste évoque le cas récent des pylônes projetés pour le REM en plein cœur de Montréal. Ils ont fini par être rejetés par la pression publique. Il rappelle en outre le projet de Grondine où, il y a 25 ans, Hydro-Québec voulait voir des fils traverser le fleuve. Ils ont fini par les enfouir devant la pression publique. À son sens, la population ne laissera pas faire ce projet sur ce site du quartier latin. Des motifs pour manifester. Hydro-Québec a organisé deux déjeuners croissants pour expliquer à quelques individus ce que nous devions en penser, mais sans nous donner de documents, d'études, de faits, rappelle Lise Bissonnette. Les médias n'étaient d'ailleurs pas admis à ces rencontres. Hydro-Québec ne parle jamais du quartier, dit-elle. Or, c'est bien ce qui devrait inquiéter les pouvoirs publics. Je suis attaché au quartier, à l'UQAM, à la Grande Bibliothèque. Je sais que c'est fini pour le quartier s'ils font ça. Ce sera un monstre. Ce sera catastrophique. Quand il faut manifester son opposition devant une affaire pareille, il faut la manifester sans hésiter. Si les étudiants de l'UQAM se cherchent des motifs pour manifester, en voilà un bon à proximité, ajoute-t-elle. Pour Gérard Baudette, le bien commun est sacrifié avec ce projet d'Hydro-Québec que la ville de Montréal laisse néanmoins aller au mépris, selon lui, des règles urbanistiques. Oui, Valérie Plante aurait pu être plus clairvoyante dans ce dossier, affirme Lise Bissonnette. Il est incroyable que des institutions publiques jouent avec l'intérêt du public sur la base de raisonnements qui sont loin d'être convaincants, renchérit Gérard Baudette. Il lui paraît invraisemblable que Hydro-Québec et le gouvernement osent prétendre qu'un concours architectural peut rendre, par enchantement, l'affaire acceptable. On nous dit, après avoir travaillé en catimini, qu'on va rendre ça joli. Vous vous souvenez du projet de REM au centre-ville? C'est exactement ce qu'on nous disait. Il y aura une signature architecturale. Nous répétait-on, soyons sérieux. Il y a des horreurs qui ne se rachètent pas par du maquillage architectural. Selon Gérard Baudette, la ville de Montréal n'a pas fait son travail. Oui, elle aurait dû y voir. Pour lui, comme pour les six autres signataires de ce manifeste, ce poste électrique aux dimensions industrielles est très dangereux pour l'avenir du quartier latin et de Montréal, dans la mesure où il fait l'impasse sur une vision d'ensemble. Plusieurs conséquences ne sont pas évaluées à leur juste valeur. Selon les signataires, cependant, il est encore temps que des échines se redressent. C'était le mégaposte d'Hydro, une plaie pour le quartier latin, selon des sommités. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir.